Et à la une en Israël ce matin, on va revenir sur l'échec des négociations, un nouvel échec d'ailleurs, sur les otages à Doha, et ce, en compagnie de Raphaël Jeruzalmi, ancien officier des renseignements militaires de Tsahal. Vous allez parler de tout cela avec lui, ma chère Lise.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, après un optimisme tempéré pendant quelques semaines, qui était encouragé par Donald Trump, qui disait qu'un accord allait être signé dans les prochains jours, finalement, les négociations sur un cessez-le-feu à Gaza n'ont pas abouti, pas de libération des otages, et les équipes de négociation ont quitté la capitale du Qatar. Les responsables du Hamas sont partis en Turquie et il n'y a aucun contact qui est prévu pour l'instant pour reprendre les pourparlers, Raphaël. Comment est-ce qu'Israël va pouvoir sortir de cette situation ?
Très difficilement, parce qu'il n'est pas certain du tout que le Hamas ait l'intention, à n'importe quel prix même exorbitant, de libérer tous les otages. Je dis bien tous les otages. Le Hamas mène tout le monde en barque, inclut Donald Trump, qui nous avait aussi promis la paix entre la Russie et l'Ukraine, et la paix, la Pax Americana mondiale, qui n'a évidemment pas lieu. Et donc là, c'est pareil, on nous a mené aussi l'opinion publique en bateau plusieurs fois. Déjà du temps de Joe Biden, on annonçait à chaque fois une avancée spectaculaire dans les négociations, alors qu'il n'y en avait aucune. Là, il est évident qu'il y a une sorte d'impasse diplomatique. Et on laisse quand même la porte ouverte ou entrouverte à des négociations, même si pour l'instant il n'y a même pas un partenaire avec qui discuter. C'est peut-être le problème, car on n'est pas très certain de qui aujourd'hui prend les décisions au sein du Hamas. Sont-ce les dirigeants qui résident à l'étranger dans les palaces d'Istanbul ou de Doha, sont-ce les dirigeants qui sont dans Gaza même, dans les tunnels, qui sont les plus coriaces, les plus fanatiques, sont-ce les dirigeants qui siègent dans des postes du Hamas au Liban, en Syrie, etc. Donc on n'est vraiment pas tellement sûr de à qui, et il y a même, le Hamas a prétendu même avoir des moyens, pendant des problèmes de communication, c'est-à-dire d'avoir une difficulté à atteindre les dirigeants, car certains d'entre eux sont ciblés et sont passibles d'être éliminés physiquement par les Israéliens.
Alors, c'est vrai qu'on parle aussi éventuellement d'un accroissement de la pression militaire, hein, Raphaël, sur le Hamas, et peut-être même d'annexion partielle de la bande de Gaza pour véritablement forcer la main du groupe terroriste. Vous y croyez ?
Pas trop. L'offensive militaire n'a pas porté ses fruits jusqu'à présent, la preuve. Plus on met la pression, on est quand même déjà à 75% de la bande de Gaza sous contrôle de Tsahal. Et donc le Hamas devrait être étranglé, si on peut dire. Donc on voit qu'il s'obstine, qu'il ne cède pas. L'annexion, c'est une possibilité. Je pense que moi, personnellement, je suis contre, pour des raisons de logistique, d'économie et de vie humaine, de part et d'autre. L'annexion sera quelque chose, c'est une occupation de nouveau de la bande de Gaza qui ne serait pas dans les mêmes conditions que jusqu'en 2005. Lorsque nous étions à Gaza jusqu'en 2005, nous avions un contrôle très ferme de la sécurité dans la bande de Gaza, et il y avait une coexistence pacifique, une statu quo entre les Israéliens et les Palestiniens dans la bande de Gaza. Je m'y baladais moi-même en uniforme, en jeep, librement, voilà. Aujourd'hui, ça serait pas du tout la même chose. Mais devant la déferlante d'antisémitisme, d'antisionisme et de toutes ces nations qui vont vouloir créer ad hoc un État palestinien qui n'existe ni historiquement ni géopolitiquement, il n'y a pas une possibilité aujourd'hui pour les Palestiniens de gérer le propre État. On leur fait cadeau d'un État qu'ils ne seront pas capables de gérer et qui risque d'être récupéré de nouveau par des extrémistes ou des terroristes. Eh bien, je pense qu'à ce moment-là, face à cette déferlante, la réponse est l'annexion. Donc moi, je dirais à Monsieur Macron, par exemple, au gouvernement belge et à tous ces bien-pensants, eh bien, si vous voulez créer un État palestinien, si vous allez nous imposer cela de l'extérieur de façon unilatérale, eh bien, nous allons l'annexer, comme ça, il n'y en aura pas d'État palestinien. C'est la réponse.
Alors, le ministre des Affaires étrangères israélien, Gideon Sar, accusait la pression diplomatique, notamment de la France dont vous venez de parler, du Royaume-Uni qui vient également d'annoncer son intention de reconnaître l'État de Palestine, d'avoir durci la position du Hamas et compromis les négociations. Vous êtes d'accord avec lui, Raphaël?
Absolument. Et il a aussi, comme je viens de le dire, aussi durci la position israélienne, car en fin de compte, ces déclarations qui sont des déclarations en l'air, qui ne prennent pas en considération la réalité sur le terrain, la solution aux problèmes palestiniens, pour l'instant à court terme, ce n'est pas un État. Peut-être à long terme, je ne le sais pas. Mais à court terme, c'est certainement pas un État. Je le dis et le répète, l'autonomie palestinienne n'est pas en état structurellement, administrativement, financièrement, d'avoir un État. C'est un État dont on lui fait cadeau, ça serait en fait une malédiction. Parce qu'il pourrait pas le gérer et ils iraient droit à l'échec. Il faut, comme on le dit, pour qu'ils aient un État, leur donner les moyens de cet État. Et avant cela, il faut donc des négociations avec les Israéliens, un statu quo, délimiter les frontières de cet État, etc., etc. Donc on est loin, 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 loin du compte. Et la situation ne justifie pas du tout ce retournement politique des États. Vous savez, vous tuez aujourd'hui 3 Palestiniens, c'est un génocide. Un enfant n'a pas eu son yaourt, c'est une famine. Tout a été gonflé, tout exagéré. Et la réponse, c'est la création d'un État palestinien. C'est une attaque contre Israël. Rien à voir avec le bien-être du peuple palestinien. Une totale hypocrisie. C'est une attaque contre l'État d'Israël.
Alors, 17 pays, dont le Qatar, l'Arabie Saoudite et l'Égypte, ont tout de même signé hier une déclaration qui appelait le Hamas à se désarmer et à renoncer à son contrôle de Gaza. C'est une première, Raphaël.
C'est une première. Ça prouve qu'il y a une sorte de shift de l'honnêteté intellectuelle du côté des pays arabes qu'on n'a plus en Europe. Les pays arabes ont très bien compris qu'il y avait un problème. Le problème, c'est pas l'État d'Israël. Le problème, c'est le Hamas. C'est ce qu'on est en train de nous faire croire ici en Europe, spécialement d'ailleurs en Belgique, que le problème vient de Jérusalem. On ne parle jamais du revers de la médaille. Et donc, les pays arabes, eux, s'en aperçoivent, ils considèrent, eux, sur le plan régional, que c'est pas du tout, ça a été jusqu'à un certain point leur intérêt. Ce n'est plus leur intérêt d'entretenir ce problème palestinien. Il faut le résoudre. Et surtout, des factions telles que le Hamas, qui émule des frères musulmans, on le sait, sont une menace pour la stabilité de la région, car derrière le Hamas, ne l'oublions pas, il y a des forces sombres, mais très puissantes, à commencer par le Qatar. Cette force-là du Qatar menace la stabilité régionale, et d'ailleurs le reste de la planète, puisqu'on voit à quel point le Qatar s'est mis dans la poche des universités, des équipes de football, et même des politiciens qui siègent aujourd'hui dans plusieurs gouvernements européens.
Alors, Yossi Amroussi, qui est un ancien du Shin Bet, donnait une interview cette semaine à Maariv, dans laquelle il disait, en fait, selon moi, aujourd'hui, il faut qu'Israël fasse plusieurs choses, déclarer qu'il n'est plus disposé à négocier et faire tout son possible pour séparer les Gazaouis du Hamas en instaurant des zones humanitaires. Et ensuite, puisqu'on estime que les lieux où se trouvent les otages sont connus, mener des négociations locales avec les gens qui les détiennent, quitte à les payer de larges rançons pour qu'ils rendent les otages. Est-ce que c'est réaliste, ces idées de cet ancien du Shin Bet?
Non, pas du tout. Alors, l'aide humanitaire, de toute manière, il faut la porter. Ça, c'est certain. Palestiniens, pas palestiniens, ça n'a aucune importance. Il y a des gens là-bas qui ont besoin qu'on les assiste sur le plan nutritif et médical. Ça ne fait aucun doute. Israël fait le maximum. Tout ce qui est dit aujourd'hui contre Israël est faux. Israël fait le plus qu'il peut. On parle quand même d'un pays de 10 millions qui doit en nourrir un de 2 millions. Donc, on fait quand même le maximum, et donc il faut que la communauté internationale s'y mette. Sur le plan de la complicité locale qu'on peut obtenir de la population gazaoui, on a offert des sommes d'argent même importantes pour des informations sur les otages. On a eu très très peu d'informations par ce canal-là. Les Gazaouis ont peur, c'est le règne de la terreur. Un simple civil gazaoui, même s'il a une information, il ne saura pas à qui s'adresser pour la donner, et même s'il le peut, il aura peur. C'est très difficile. On a vu les résultats de ces offres très généreuse d'argent et le peu d'informations qui a été établi, je pense que ce qui reste, ce n'est pas d'arrêter les négociations, parce qu'on les a arrêtées déjà 10 fois. La seule solution qui n'a pas été envisagée, il n'y a qu'un seul truc, dirons-nous, qu'on n'a pas essayé depuis le début, c'est d'accepter les revendications du Hamas, c'est dire, ok, on arrête la guerre, on se retire de Gaza, on vous donne des terroristes, et la seule raison pour laquelle je préconise qu'on fasse cela, c'est pour voir si le Hamas est véritablement sérieux, à mon avis il ne l'est pas, et montrer tout simplement que le Hamas n'a aucunement l'intention de libérer tous les otages, et que effectivement on ne pourra le faire que par peut-être des opérations militaires très audacieuses, très dangereuses, dangereuses pour les otages, dangereuses pour les soldats de Tsahal, mais je vois très mal le Hamas libérer des otages, même si Israël accepte toutes les conditions qu'impose le Hamas.
Ma dernière question, Raphaël Jérusalemi, elle sera sur l'aide humanitaire. Elle fait beaucoup polémique ces derniers jours. Même Donald Trump a parlé de famine à Gaza. Il y a eu également aussi beaucoup de propagande dans laquelle sont tombés de grands journaux internationaux comme le New York Times ou le Guardian. Ce narratif du Hamas sur la famine, en fait, c'est ça aussi qui lui a permis d'arrêter les négociations, en se disant que c'était finalement beaucoup plus efficace d'accuser Israël et de laisser les pays occidentaux tomber dans le panneau, non ?
Oui, mais comme je l'ai dit, c'est assez amusant parce que tout est à l'envers. Effectivement, le fait de ne jamais prendre en considération les données d'Israël ou de Tsahal, mais uniquement celles du Hamas, mène à ces aberrations journalistiques et morales. C'est ridicule. Nous avons par exemple un porte-parole de Tsahal, Olivier Rafovitz, qui fait très bien son travail. Il est attaqué, il est critiqué, on le laisse parler, mais en lui posant des questions en général plutôt vaches, alors que lorsque il s'agit des représentants du Hamas ou de la bande de Gaza, ils peuvent balancer n'importe quelle insanité sur le plan des chiffres. On sait aujourd'hui que les 3/4 des chiffres sont gonflés, que là, ce qu'on appelle des enfants, il y en a qui ont 4 ou 20 ans, etc. Donc les chiffres sont faux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de souffrance. Il y a une souffrance humaine à Gaza, qui n'est pas une famine. Il y a peut-être une mauvaise nutrition, effectivement, pour les enfants en plein développement. Manger du riz et de la farine, ça suffit pas. Il y a des problèmes, mais Israël fait son possible. Des millions de tonnes de ravitaillement ont été fournis. L'Israélien paye aujourd'hui son pot de yaourt 3 fois le prix de ce qu'il le payait dans le temps. L'économie israélienne tient le coup et nourrit ces 2 millions de Gazaouis du mieux qu'elle peut. Je l'ai dit et je le répète, vous tuez 3 Palestiniens, c'est un génocide. Vous leur donnez pas le pot de yaourt, c'est la famine. Les accusations fusent de toutes parts et le problème, c'est la dialectique. Les photos qui sont truquées, tout le monde le sait, le New York Times a été bien contraint de l'admettre, la BBC aussi. Mais ça ne les empêche pas de continuer dans ces mensonges. C'est tout simplement une décadence totale de l'éthique professionnelle des journalistes, une décadence totale morale des dirigeants tels que le président français ou le gouvernement belge sur le plan moral et intellectuel. Le niveau moral et intellectuel aujourd'hui des dirigeants européens est tombé vraiment pas loin de zéro.
Merci Raphaël Jérusalemi pour vos opinions et vos analyses. Je rappelle que vous êtes ancien officier des renseignements militaires de Tsahal et que vos tribunes de guerre sont parues récemment aux éditions David Reynard. Bonne journée à vous, à très bientôt.